Si vous avez l'habitude de l'émission, vous allez très certainement reconnaître sa voix grave. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Étienne Drolet. Il est biologiste. Il est également coordinateur de projet au COBALI. Si vous ne connaissez pas le COBALI, ben en fait, c'est un organisme qui est responsable de la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Et voilà, alors, ben, je te dis bonjour. Salut, Pierre-Étienne.
Salut, Patrick.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien, mis à part un mini-truc, je sais pas de quoi tu nous parles aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va parler de biodiversité, bien entendu, surtout aquatique, ces concepts. Puis, ouais. Par la bande, ça va nous amener à parler aussi d'évolution des espèces.
OK. C'est un mot qu'on entend quand même souvent, biodiversité. Cela dit, c'est pas tout le monde qui est expert en la chose. Toi, tu peux nous en parler beaucoup mieux que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par le terme de biodiversité?
C'est un concept qui est très large, en gros, qui désigne la diversité des formes de vie sous toutes ses formes. Le terme biodiversité, ça s'applique à la fois à la diversité des écosystèmes, hein, qui sont des grandes communautés d'êtres vivants, ouais. Mais aussi de la diversité des espèces qui les composent. La biodiversité, en plus, ça va plus loin que ça, parce que ça désigne même la variabilité qu'il y a entre les populations d'une même espèce. C'est par exemple, c'est des différences de comportement ou des différences génétiques importantes.
OK. Si on se concentre sur la diversité à l'intérieur d'une même espèce, est-ce qu'on aurait peut-être des exemples dans notre région ici?
Oui, bien, on ne peut pas passer à côté du fameux cisco de printemps. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce poisson-là, Patrick.
Ben moi, je connais le cisco de Tong Song, là, mais ça, c'est autre chose, je pense.
Alors, le cisco, normalement, le cisco de lac, c'est un petit poisson argenté là, qui se reproduit à l'automne. Mais nous, dans le lac des Écorces, on a une variété très intéressante de cisco qui, lui, fraye au printemps. Okay. Donc, on l'appelle le cisco de printemps.
Un petit retardataire, là.
C'est ça. Donc, comme lui, il se reproduit au printemps et les autres cisco se reproduisent à l'automne dans tous les autres lacs, ben, le cisco de printemps du lac des Écorces a développé une anatomie là, qui est un petit peu différente. Puis okay. Avec le temps, il pourrait devenir une espèce à part entière. C'est un excellent exemple en fait d'une population vraiment distincte là, du reste de son espèce parce qu'il s'est adapté à un contexte différent. Pourquoi le lac des Écorces aurait cette particularité-là? Ouais. Bon, on pense que ça serait dû à la température de l'eau qui n'est pas assez froide à l'automne là, au fond du lac où il se reproduit.
Parce que pas assez profond, quoi?
Parce que c'est la rivière Kiamika qui alimente le lac des Écorces, puis elle renouvelle l'eau du lac à un rythme super élevé.
Ah, OK.
Ce qui fait que l'eau met un petit peu plus de temps à se refroidir à l'automne. Fait que, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est formulée présentement. Là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que présentement, c'est la seule population de cisco qui se reproduit au printemps au Canada, puis peut-être même au monde.
Ben, je suis étonné, mais je suis content d'avoir au moins la théorie qui vient avec la réponse. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'un phénomène comme ça?
Oui, un autre exemple d'évolution en direct, si on veut, qui est peut-être plus connu des pêcheurs, là, c'est le cas de l'ombre de fontaine, donc la fameuse truite mouchetée. Là.
Ouais.
Fait que, dans un même lac, on retrouve très souvent deux formes de truite mouchetée un petit peu distinctes. Fait que, d'un côté, on a des truites qui vivent surtout en eau plus profonde, puis qui mangent principalement là, des petits organismes qu'on appelle du plancton.
Ouais.
Puis ce type de truites-là, ben, en général, ils ont des nageoires un petit peu plus petites puis un corps un peu plus élancé. De l'autre côté, ben, il y a des truites qui vivent surtout dans le littoral, hein, en eau moins profonde, puis qui mangent surtout des insectes puis des plus grosses proies. Et que les autres, ben, c'est l'inverse, hein, ils ont des nageoires plus longues puis un corps un petit peu plus trapu. Fait que les chercheurs ont observé que ces deux sous-populations, en fait, ont tendance aussi à se reproduire à des moments un peu différents.
Est-ce qu'on est déjà rendu à pouvoir parler de deux espèces différentes ou pas tout à fait encore?
Ben, pas encore, mais avec le temps, c'est très possible qu'on arrive à deux espèces. En passant, c'est ce qui explique, là, pour ceux qui aiment bien la truite comme moi, là, que certaines truites mouchetées ont une chair plus blanche
okay.
quand on la fait cuire. Là. Ça, c'est le cas de la forme qui est plus en eau profonde. C'est-à-dire en eau peu profonde. Et celle qui est rosée, c'est plutôt celle qui habite en eau plus profonde.
pensais pas à ça, mais tu me donnes faim finalement en ce moment.
Éventuellement, ben, on pourrait s'enligner vers deux espèces différentes si on leur laisse le temps. Il y a aussi des cas de poissons qui normalement vivent en eau salée puis qui se reproduisent en eau douce. On connaît le saumon là, qui a un peu ce rythme de vie-là. Mais on a aussi certaines espèces qui ont été coincées dans des lacs après la dernière glaciation puis qui se sont adaptées à une vie 100% eau douce puis sans migration. C'est le cas, entre autres, au Québec de la Wananiche, qui est en fait un saumon, mais qui a appris à vivre dans les lacs.
Okay.
Puis aussi l'homme chevalier, qui ressemble un petit peu à la truite mouchetée, là, qui est présent dans quelques lacs de la région, puis un petit peu plus en Outaouais.
Fait qu'il y a zéro migration dans ces cas-là?
C'est ça. Plutôt que de migrer, ils vont rester tout le temps dans un lac. Ils ont fini par s'adapter à certains lacs. C'est comme des populations reliques, qu'on appelle, là, de la dernière période glaciaire.
Oh, ça commence à faire un petit bout, là.
Oui, ça fait un petit bout, la dernière de glaciation. J'étais pas là, en tout cas. Sinon, petite anecdote, il y a aussi des populations un petit peu particulières avec une certaine génétique. Exemple, au Québec, il y a certains dorés de couleur bleutée dans certains lacs. Ou encore, il y a aussi des truites sans tache dans deux lacs de la ZEC Michinamekus qui ont été découverts il y a quelques années. Ça, c'est des petites particularités génétiques là, qu'on retrouve dans certains plans d'eau qui peuvent, avec le temps, finir par faire des populations un petit peu plus distinctes.
Bon, j'imagine que dans ton domaine, des fois, faire des découvertes de nouvelles espèces, c'est pas toujours un bon signe, mais je trouve ça excitant, moi, de voir qu'on découvre encore des choses.
Oui, parce que souvent, quand on découvre des espèces, on en parle souvent, hein, c'est les espèces envahissantes qu'on regarde. Là. Sauf qu'on trouve aussi des espèces indigènes qu'on connaissait pas dans certains plans d'eau. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout. Hein,
ouais.
Mais surtout dans le cas du milieu aquatique, ben, il est moins connu parce qu'il est un petit peu plus difficile d'accès. Donc, tu sais, par exemple, là, récemment, là, dans un lac là, du centre du Québec, il y a une biologiste qui a découvert par hasard une espèce de plante carnivore là, indigène,
okay.
Donc l'utriculaire rayonnante pour les intimes, qui n'avait jamais encore été répertoriée au Québec, mais qui était présente pas très loin aux États-Unis. La même chose s'est produite dans un lac à Val-des-Monts il y a quelques années. On a découvert une nouvelle espèce au Québec. Qui est naturellement présent. Puis même en 2019, le Kobali aussi, là, on a découvert une espèce de plante aquatique super rare au Québec, là, dans un lac en Outaouais,
okay.
Qui s'appelle la naïade olivâtre. C'est jusqu'ici, les seules populations qui étaient connues étaient dans le fleuve, dans la région de Montréal. Puis là, c'est la première fois qu'on a trouvé dans un lac. Donc, on fait encore des découvertes.
Des espèces bizarres dans le coin de Montréal, ça me surprend un peu moins, là, mais quand même, tu sais, je t'entends parler d'une plante carnivore, ça me donne le goût de faire un film d'horreur québécois avec ça. J'ai vraiment le goût.
Faut ouvrir l'œil, chaque citoyen qui s'informe un peu peut faire des découvertes, dans le fond.
Et d'ailleurs, si vous faites des découvertes, ce serait peut-être une bonne idée de contacter la voix que vous venez d'entendre. On était avec Pierre-Étienne Drolet. Il est biologiste, coordonnateur de projet également pour le Kobali. Merci beaucoup, Pierre-Étienne.
Salut, Patrick. À la prochaine.
On va se travailler un film d'horreur ensemble. J'ai pas peur.